Voilà, donc quelques mots sur la question de la solitude, qui, celle que paradoxalement nous partageons ce soir. Nous allons parler ensemble de la solitude, ce qui fait déjà en soi une situation paradoxale. Il me semble que ce qui nous invite à nous pencher sur cette question, c'est que dans l'air du temps, dans les opinions qu'il est convenu d'avoir, on développe beaucoup les qualités de communication, les qualités de sympathie, de dialogue et d'échange. Et ceci, non seulement à travers des qualités personnelles qui font que l'on se méfierait de celui qui serait trop solitaire, qui prendrait ses décisions dans un splendide isolement, mais les organisations de réunions de toutes sortes, pour toutes questions, nous invitent aussi à penser cette nécessité donc de l'échange, de la communication. Nous vivons, c'est trop clair, on ne va pas s'apesantir là-dessus, dans un monde où il est essentiel de communiquer. Cela ne va pas sans question. Parce qu'on peut se dire que dans ce monde communicant, il y a peu de place laissée à la personne. Car à force de communiquer, on fait passer un point de vue moyen, une opinion commune. Et comme le disait Peggy, on ne met en commun que ce qui est commun. Et il y a un moment où le prix de la mise en commun serait en quelque sorte la perte de soi. La perte de ce qui fait la vraie source d'une liberté, d'une conscience. Et donc on peut imaginer une figure sympathique et bienveillante de gens qui savent taper sur le ventre de leurs amis, mais au fond sont dépouillés de toute intériorité. Et à ce moment-là, on peut s'interroger sur la capacité qu'a un tel être dépouillé de toute intériorité à décider, construire, même à exercer une autorité véritable si elle n'est pas ressourcée à ce qu'il faut bien appeler une solitude essentielle. Je prends cet exemple que tout le monde peut partager. Quand, il est vrai que quand on regarde nos hommes politiques, parfois on se demande, mais ont-ils seulement du temps pour leur vie intérieure? Ont-ils le temps de méditer, de contempler, de prier, pourquoi pas? Et ils n'ont pas ce temps de vie intérieure, on peut douter au fond de la véritable racine de leur liberté. Et tout se passerait alors comme s'ils étaient défaits d'eux-mêmes, dans un pur affichage de soi, qui est dépersonnalisant, déréalisant même. Luc Boltanski, dans un livre que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, que je tiens pour un très grand livre sur la sociologie de l'entreprise, sinon le plus grand sur la sociologie de l'entreprise, qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme », parle ainsi de l'esprit caméléon et dit que les qualités que l'on demande maintenant à l'entrepreneur d'adaptabilité, d'ouverture, d'infidélité même, finalement, eh bien, ces qualités se payent de la perte de soi. Et que cet entrepreneur est en danger d'être une sorte de caméléon qui adoptera le point de vue de la collectivité dans laquelle il se trouve. Donc la question de la solitude se pose bien dans le contexte d'un discours ambiant qui recommande au contraire donc les vertus de la communication, de l'amitié, de la sympathie. D'ailleurs, parfois, je me dis que le mime de l'amitié est sans doute plus coûteux que le mime du respect. Mimer le respect, ça va. Je veux bien saluer à six pas celui à qui je dois le respect. Mimer l'amitié, être toujours dans le grand sourire, hey, « Salut Charlie, comment ça va ?» Ça doit être usant. Et ça doit certainement faire perdre quelque chose de la conscience et par là même de la capacité à décider. Alors, puisque il m'est imparti d'aborder la réflexion comme philosophe, j'aborderai le concept, la notion de solitude sous trois aspects. Premièrement, la solitude subie. Deuxièmement, la solitude assumée. Troisièmement, la solitude essentielle. Premièrement, la solitude subie, qu'à proprement parler, il conviendrait d'appeler isolement. L'isolement, c'est d'abord la position géographique de quelqu'un qui se trouverait sans personne à qui parler, qui se trouverait géographiquement seul, et ou alors qui se trouve dans une position d'isolement parce que il n'est pas entouré de gens pour l'écouter, le comprendre, le connaître. C'est un cliché, mais ce n'est pas seulement un cliché que de parler de l'isolement au milieu de la foule. Donc l'isolement n'est pas seulement géographique. Je suis isolé quand je suis sur une île, puisque c'est la racine du mot isolement. Mais l'isolement est aussi psychologique, social, de celui qui se trouverait pris dans une foule où, au bout du compte, il est anonyme et où il ne trouve personne qui le reconnaisse. Surmonter cette solitude subie, c'est obtenir une reconnaissance, être reconnu. Celui qu'on ne reconnaît pas dans la foule, il est solitaire. Il est isolé, en tout cas, et donc il est comme une ombre dans cette foule. Cet isolement peut tenir à des raisons donc de type économique, social. On connaît l'isolement des personnes âgées, même si leur appartement est dans un immeuble où il y a des voisins. On connaît l'isolement de ceux qui sont sans ressources, même s'ils se trouvent dans des bandes, mais parce qu'au fond, étant sans ressources, ils ne sont des partenaires pour aucune activité, aucun échange et aucune forme de reconnaissance. Cet isolement se paye d'une déréalisation du temps. Vous avez peut-être entendu l'an dernier, en tout cas j'ai entendu l'an dernier, une promotion radiophonique sur le thème de la solitude et de la lutte contre la solitude. Il y a régulièrement, tous les ans, une journée de lutte contre la solitude. Question: comment allez-vous évoquer sur le plan radiophonique la solitude ? Avant que vous donniez la réponse, je vous donne celle qui fut choisie et qui est sans doute la seule possible. La solitude a été évoquée par le tic-tac de l'horloge. C'est-à-dire que la situation de la personne solitaire au sens de isolée, ne trouvant personne à qui parler, ne trouvant pas d'amis et personne qui le reconnaisse, c'est une sorte de déréalisation du temps que l'on appelle l'ennui. Et qui ne laisse plus que le temps s'écouler vide de tout projet, de toute activité. des réalisations du temps et d'ailleurs des réalisations de l'espace. L'isolement se paye aussi, non seulement d'une déréalisation du temps, mais des réalisations du temps d'ailleurs qui tient, que l'on voit aussi dans le fait qu'un certain nombre de patients perdent le sens du temps, mais des réalisations aussi de l'espace, bien évoquées par le beau livre de Michel Tournier, Robinson ou les lames du Pacifique, dans lequel Robinson se trouve seul sur son île, donc il est isolé. Et seul sur son île, il construit un radeau pour s'échapper de l'île. Ce radeau, il le construit avec ardeur, courage et savoir-faire. Et une fois qu'il l'a terminé, il s'aperçoit qu'il l'a construit à 20 mètres de l'eau. Et qu'il n'est plus en mesure de le tirer jusqu'à la mer. Et il se dit que s'il y avait eu quelqu'un à côté de lui, il lui aurait dit: ton radeau, il est trop loin. Mais celui qui est isolé n'a plus d'espace partagé avec les autres. Et ce qui fait la réalité de cet espace, ce qui fait la réalité de l'espace et du temps, c'est que nous les partageons avec les autres. Et si l'isolement est une détresse humaine, y compris dans la prison, c'est parce que cette détresse humaine est accompagné de cette décomposition du temps et de l'espace. Mais cette solitude subie doit être distinguée de la solitude assumée. C'est-à-dire celui qui porte en lui quelque chose qu'il ne peut pas partager, quelque chose qu'il ne veut pas partager, ou quelque chose qui est au-delà de toute communication. Par exemple, celui qui a un secret. Je parle d'un vrai secret, hein, car on sait bien que le secret est une chose qu'on ne dit qu'à une personne à la fois. Mais celui qui est dépositaire d'un véritable secret, comme c'est la situation de Hamlet dans Shakespeare, il se trouve pris dans une solitude qu'il doit assumer pleinement, qu'aucune confidence ne va venir combler et qui a quelque chose d'irréductible et de tragique. Sans doute, cette solitude assumée, nous reviendrons là-dessus, est-elle celle de celui qui doit décider? Parce que celui qui doit décider, il sait bien que, dans sa décision, tout n'est pas épuisable par des raisons. Dans une décision, tout ne se décline pas en justification. Une décision, sinon, serait la solution d'un problème. Je pose mon addition, tac, 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 solution. Or, dans une décision, on le sait, il y a toujours beaucoup plus que la solution d'un problème. Il y a un saut, qui est le saut du possible au réel, le saut du calculable à l'incalculable. Vous trouverez toujours des gens pour vous dire, faut calculer. Mais décider, c'est faire le saut dans l'incalculable. Et ce saut dans l'incalculable, il ne peut être partagé avec personne. À moins qu'on décide de sauter tous ensemble, mais on sera des solitaires qui sautent tous ensemble. Et donc, il me semble que toute position de responsabilité, quelle qu'en soit la nature, passe par le fait d'assumer cette solitude irréductible, qui tient donc à l'écart entre le calculable et l'incalculable, à l'écart entre le possible et le réel, car décider, c'est passer du possible au réel. Et c'est pour ça que la métaphore que prennent les philosophes, c'est celle du saut. Le grand auteur sur la question, j'y renvoie ceux que cela intéresserait, ils y gagneraient beaucoup, c'est Kierkegaard, puisque la réflexion, toute la réflexion de Kierkegaard porte sur, justement, la solitude, et la solitude liée au fait que Rien ne remplacera jamais la nécessité de décider. Abraham, sacrifiant Isaac, ne peut pas s'expliquer. Il ne va pas dire à Isaac, tu vois mon petit, c'est un mauvais moment à passer. Il ne va pas. Abraham est condamné au silence. Et il n'y a pas d'autre solution que le silence. Tout discours pour combler ce silence serait vulgaire et déplacé, au fond. Cette solitude assumée renvoie enfin à une solitude essentielle, qui est que, si sympathique que soit la reconnaissance, si proche que soit une amitié, si sincère que soit une parole, au fond, on reste seul. Y compris avec les êtres dont on est les plus proches. Parce que j'évoquais tout à l'heure l'idée de l'intériorité, les autres, si proches soient-ils, nos amis, si proches soient-ils, au fond, nous voient toujours de l'extérieur et on pourrait même dire avec Sartre, ce qui est la fameuse formule de Sartre, l'enfer c'est les autres. Pourquoi Sartre dit-il que l'enfer c'est les autres? Parce que pour Sartre, le regard des autres est toujours un regard qui est extérieur, qui me traite toujours quelque peu comme un objet. Et ma liberté ultime, elle est réelle dans la vie intérieure, dans ce qui correspond, il faut le dire, au rapport de la conscience et de la mort. C'est ce que dit Pascal, nous sommes plaisants de nous reposer sur la société de nos semblables, nous mourrons seuls. Et il y a en chacun de nous, plus ou moins sourd, plus ou moins avoué, ce sentiment que les relations sympathiques sont sympathiques, certes, mais au fond qu'elles ne vont pas au bout. C'est encore Kierkegaard qui imagine la femme aimante disant à son amant « Je t'aimerai toujours, je te sauverai de toute situation ». Et l'amant pense, oui, mais si tu meurs, ou si je meurs. Et même dans le plus grand amour humain, le plus sublime, il y a quelque chose d'irréductible. C'est pour ça que la passion nous raconte des sottises quand elle dit nous mourrons ensemble. On ne meurt jamais ensemble. Les passionnés croient qu'ils meurent ensemble, ils meurent côte à côte. Et la mort même les sépare au moment même où ils croient s'unir. C'est pourquoi, pour cette réflexion sur la solitude de l'entrepreneur, sur la solitude de la décision, il convient de revenir à cette capacité que chacun a ou aurait à prendre sa propre existence au sérieux, dans une intériorité qui restera à jamais intraduisible. Et que ce qu'un homme qui a de grandes décisions à prendre devrait avant tout soigner, c'est l'espace de sa vie intérieure. Pour la conclusion, j'emprunterai des mots à quelqu'un que j'ai beaucoup admiré et que certains ont connu ici, qui fut un grand homme d'entreprise à bien des égards, le père Perrault, qui fut pendant longtemps le directeur des Maristes, qui passait pour un grand homme d'entreprise, mais qui était essentiellement un homme de la vie intérieure. Mais comment voulez-vous que l'on dise « t'as vu ma vie intérieure ?» Dire à quelqu'un « t'as vu ma vie intérieure », c'est évidemment aussitôt l'extérioriser. Et celui qui voudrait extérioriser sa vie intérieure en roulant les yeux au ciel, en poussant des soupirs, etc., justement, il extériorise sa vie intérieure. La vie intérieure, c'est ce qui sera à jamais, c'est ce qu'il faut accepter, qu'il soit à jamais perdu aux yeux des autres. Je vous lis ce très beau texte auquel je dois tout. Et je suis content de le partager avec vous, même si notre partage ne va pas jusqu'au bout. Écoutez bien ce texte est extrait d'un éditorial du père Perrault. Le secret d'un être n'est pas dans ce qu'il cache, mais dans tout ce qui, dans sa vie, est accompli dans le silence, pour que son expression en soit moins contestable. C'est le seul nourricier de la vérité de ses discours. Il est nécessaire que bien des choses soient offertes dans le silence pour que les mots n'en soient que la surabondance. Le secret d'un être peut ainsi naître il faut toujours écrire comme il faut. Le secret d'un être peut ainsi n'être aucunement ce qu'il refuse de livrer, mais ce qu'il accepte de perdre. Je relis cette phrase qui, pour moi, est un joyau et qui inspire, je l'espère, toute ma vie. Le secret d'un être peut ainsi n'être aucunement ce qu'il refuse de livrer, mais ce qu'il accepte de perdre devant les hommes. Sa vie la plus profonde et la plus renoncée, la condition de sa présence. L'impression la plus dépouillée et la plus chaleureuse jaillit de cette intériorité sans cesse recréée, présence de l'excès personnel sur l'instant de la manifestation. Je pourrais vous envoyer ce texte, si vous le souhaitez, par les voies de communication qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà, si M. Bruno Lacroix veut...
Avec plaisir, je vais rompre une partie de la règle, Jean-Noël, pour dire que, quand vous dites que ma vie intérieure ne peut pas s'extérioriser, je suis marqué, quand on va dans certains monastères, de voir le rayonnement de personnes qui sont dans ces monastères et qui ont une vie intérieure riche, et cette vie intérieure est tellement riche qu'elle rayonne à l'extérieur. Donc, oui, ça dépasse quand même l'intérieur.
Bien. Mais ça ne peut pas être volontaire.
Croyez-vous. Ah, c'est tellement vécu.
Si c'est volontaire, ça devient une
porte. Non, mais ça veut dire qu'elles ne l'interdisent pas.
Oui, mais ça coule par surabondance.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Bien. Après ce démarrage très philosophique, je vais me raconter, c'est plus facile. Mais vous allez voir qu'il y a des tas de points d'accroche avec ce qui a été abordé pour démarrer. Je suis sorti d'une école qui s'appelle l'École supérieure de commerce de Paris, à 22 ans. Et à l'époque, j'ai enchaîné 18 mois de service militaire. Et je me suis retrouvé donc à 24 ans à démarrer dans une entreprise familiale qui faisait de la sous-traitance en découpage en boutisage, une petite entreprise d'une soixantaine de personnes, dans laquelle j'ai eu la chance de pouvoir faire autre chose parce que je ne voulais pas faire ce métier. Et j'ai pu lancer une autre activité qui est le matériel de ventilation, qui est celui qui a fait vivre l'entreprise pendant les 45 ans où je l'ai dirigé. Voilà ce que j'ai fait. Alors je me suis lancé dans l'action. Et puis, au-delà de ceci, assez rapidement, je me suis retrouvé confronté à des décisions stratégiques lourdes. Et face à ces décisions stratégiques, complètement désemparé. Je n'avais pas les repères, je n'avais pas les ressources autour de moi. J'étais seul face à moi-même et avec, j'allais dire, mon vide intérieur, en plus... Et du coup, une excessive difficulté à faire ces choix stratégiques que je considérais comme étant excessivement importants pour l'avenir de l'entreprise. Et du coup, quelques courtes années après, un ou deux amis m'ont entraîné pour rentrer au CJD, ils sont déjà dirigeants d'entreprise, et j'ai eu la chance, cette chance en fait... de pouvoir rentrer au CJD et de pouvoir au CJD, avec quelques amis qui y étaient, confronter des idées, construire des repères. J'avais besoin de construire des repères Et c'est dans la confrontation d'idées, la réflexion, l'échange, les cas concrets sur lesquels on travaillait, que j'ai pu construire des repères concernant l'entreprise. L'entreprise, le management, les hommes dans l'entreprise, des dimensions économiques, sociales et autres. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et puis grâce au CJD, et c'était une des conditions sine qua non quand on prenait une responsabilité qui était de prendre la présidence d'une des sections à Lyon, il y avait une obligation, c'était de se préparer à la responsabilité de prise de présidence de section et d'aller dans une formation de développement personnel qui s'appelait à l'époque « Leader et responsable », qui était développée par quelqu'un qui est resté pour moi un homme extraordinaire, qui est Jean Kerr. Et j'ai découvert, dans le cadre de ces formations, une deuxième dimension qui me manquait énormément. Je me suis découvert. Ces formations de développement personnel m'ont obligé à aller découvrir mon intériorité et m'ont aidé à découvrir ce qui faisait mes richesses ou mes faiblesses et pouvoir travailler dessus. J'ai entre autres découvert à cette occasion-là, et ce que j'ai pu utiliser après, et l'utiliser à bon escient, la force de l'intuitif et du subconscient. Je sortais de chez les jésuites, et les jésuites, en excellent cartésien, j'ai pas été chez les maristes, j'étais chez les jésuites, en excellent cartésien, vous apprenez à être cartésien, à démontrer, à analyser, mais surtout pas à percevoir. Et quand j'ai découvert la force de l'intuitif et du subconscient, et comment on pouvait utiliser cet intuitif et ce subconscient, ça a été pour moi une découverte absolument extraordinaire, et en particulier que j'ai ensuite utilisé systématiquement, mais en le contrôlant par derrière, effectivement, la construction intellectuelle. Il ne faut pas faire que de l'intuitif, il faut quand même le contrôler. Et je l'ai systématiquement utilisé dans le recrutement. Et dans le cadre du recrutement, je laissais marcher l'intuitif, et entre le moment où la personne que je rencontrais passait la porte et s'asseyait en face de moi, dans la première minute, je laissais tous les radars fonctionner. Les radars m'envoyaient une perception, et ensuite je passais 59 minutes à essayer de décoder et à comprendre ce que l'intuitif et les radars m'avaient transmis. C'est d'une richesse fabuleuse. J'ai essayé, de façon très cartésienne, de passer par-dessus un certain nombre de fois. Au bout de quelques mois, j'ai compris que l'intuitif avait raison sur la partie cartésienne dans la façon de sentir, d'appréhender les gens et de les découvrir. Donc, énorme richesse de l'intuitif que j'ai découvert grâce à ça. Donc, ce travail de développement personnel que j'ai continué après, qui m'a obligé à travailler aussi donc sur mon intériorité, où j'ai découvert ce que pouvait apporter la méditation, la réflexion dans ce cadre-là, m'a permis non seulement de découvrir des richesses, mais également de découvrir le mode de relation avec les autres et de mieux comprendre les autres et leur mode de fonctionnement. Relation à l'autre en interpersonnel, relation à l'autre en groupe, donc aux autres en groupe, et de ce fait d'avoir une bien meilleure régulation, meilleur fonctionnement en lien avec les autres, à tel point d'ailleurs que j'ai trouvé ces formations tellement fabuleuses que j'ai décidé que tous les cadres chez nous passeraient par cette formation. Un certain nombre l'ont accepté très volontiers et j'allais dire ont grandi grâce à ce type de formation de développement personnel. D'autres l'ont moins accepté parce que c'est une remise en cause personnelle ou une mise à plat d'une partie de ce qu'on est dans ces formations de groupe. Et c'est dommage. À partir de là, je veux dire, ça m'a déjà donné beaucoup plus d'aisance dans la possibilité d'aborder les problèmes, de résoudre les problèmes et de prise de décision. Et c'est là où Je me sens en fait dans la nécessité de glisser une des choses que j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de mes missions sur la formation, c'est qu'est-ce que la compétence professionnelle. Et la compétence professionnelle, elle a une définition que nous avions élaborée à l'époque, c'est faire face à des situations professionnelles en puisant dans ses ressources. On est compétent si on sait faire face à une situation professionnelle. Donc je suis dans une situation professionnelle, je sais faire face à cette situation, je suis compétent. Je ne sais pas faire face à la situation, je n'ai pas la compétence en question. Je ne dis pas que je suis incompétent, je n'ai pas la compétence qui permet de faire face à cette situation-là. Et pour les salariés de l'entreprise, c'est la même chose. Je vais les envoyer, ils vont être confrontés à des situations professionnelles, diverses et variées, domaine technique, domaine commercial, domaine managérial, souvent beaucoup, beaucoup mélangés. Où je leur donne tous les moyens, je leur donne les ressources, les muscles pour faire face à cette situation professionnelle, et ils auront les compétences adéquates, ou s'ils n'ont pas les éléments nécessaires, ils auront beaucoup de difficultés. Et ces ressources intérieures, c'est quoi? C'est du savoir. C'est là où je disais, je suis sorti de Subduco Paris, j'avais un niveau de savoir théorique pas négligeable. Mais confronté à des situations de choix stratégiques, il n'y avait pas le savoir-faire et il n'y avait pas le comportemental éventuellement qui accompagnait, puis ça manquait de repères. Voilà donc la définition de la compétence. Et puis ensuite, l'entreprise a grandi. Et l'entreprise grandissant, ça m'a permis d'avoir autour de moi des équipes de cadres, d'abord plus nombreuses, et puis de niveaux de plus en plus élevés. Et j'ai découvert progressivement en fait toute la richesse de la réflexion à plusieurs. Alors cette richesse de la réflexion à plusieurs, c'est assez extraordinaire parce qu'on est quand même plusieurs à se mettre face à une problématique, rechercher des solutions, dérouler des méthodologies, analyser les conséquences des choix, donc préparer les décisions. Et c'est d'une richesse tout à fait remarquable. Je dis toujours, quand je suis seul, je prends la bouteille, je ne vois jamais que la moitié de la surface qui est développée par le cylindre. Nous nous mettons à trois autour de la table, à condition qu'on ne soit pas trois clones. Et donc on est trois visions différentes, ce qui fait aussi partie de la richesse des équipes qu'on constitue. Eh bien, on va avoir de plus en plus d'angles de vision, en fait, du sujet en question. Et c'est réducteur d'incertitude. Et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, d'être à plusieurs sur une problématique, de l'analyser avec des regards différents, et du coup de réduire l'incertitude dans la préparation de la décision. À la condition, et j'y reviens, de constituer des équipes où on n'en bouge pas des clones. C'est au contraire, on cherche en fait des bonnes complémentarités, de grandes complémentarités avec les autres personnes de l'équipe, et qu'on met en place un certain nombre de règles, c'est-à-dire presque d'obligations, qui sont du parler vrai, de l'analyse critique, qui permettent d'avancer et de construire des choses. Tout ça, c'est d'une très grande richesse, c'est formidable, c'est réducteur d'incertitude, mais in fine, la décision, c'est vous qui la prenez. Alors elle est beaucoup plus confortable, parce que quand vous avez cette réduction d'incertitude, cette analyse, cette construction qui se fait, c'est plus facile de prendre des décisions dans ce contexte-là que lorsque je me trouvais à 2 ou 3 ans d'expérience professionnelle, sans repères, sans construction de repères. Là, j'avais non seulement construit ma bibliothèque interne de repères, mais en plus, j'utilisais les bibliothèques de repères des autres. Donc, il y avait plusieurs bibliothèques disponibles en même temps pour analyser les sujets et réducteur d'incertitude. Alors ça marche dans une certaine culture. Je racontais à Jean-Noël Dumont tout à l'heure qu'on a acheté à un moment donné une entreprise en Finlande. Et les premières fois où j'ai travaillé avec l'équipe finlandaise, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce qu'en fait, les modes de fonctionnement étaient différents dans des cultures différentes. Dans l'entreprise, ici, j'avais construit un mode de fonctionnement où un problème est posé, il y a une première phase, de confrontation d'idées, d'échanges, de construction, où à partir de là, on pose des matériaux, on réduit l'incertitude et on prépare la décision. Et puis la décision se prend. Chez mes Finlandais, ce n'est pas ça du tout, la culture. C'est qu'entre eux, ils passaient les heures qu'il fallait à préparer la réunion, ils présentaient au boss le problème, les solutions proposées, et ils attendaient que le boss concrétise la décision. Et une fois que le boss avait parlé, terminé, on ne revenait pas sur le sujet. Alors au début, j'essayais d'avoir avec eux la confrontation d'idées et autres. Pas question, là, on a pédalé dans la choucroute un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on s'explique et qu'on mette en place une méthodologie où, on avait cette phase de confrontation d'idées avant. Et puis, j'ai rompre l'isolement, en fait, du chef d'entreprise, c'est non seulement la rompre en ce qui concerne son intériorité, sa bibliothèque et tout ce qu'on se donne comme élément, c'est avoir une équipe, et quand on a la chance d'être d'une entreprise de taille moyenne, voire moyenne grosse, on a des équipes de plus en plus fournies et de plus en plus agréables pour travailler. Mais c'est également, en fait, être aussi, branché sur l'extérieur pour s'alimenter, être branché sur des réseaux, des lieux de réflexion, d'enrichissement, de culture, puisqu'en fait, il faut sortir aussi de son quotidien et s'ouvrir les yeux, s'ouvrir la tête et s'aérer l'esprit. Et à partir de là, on rompt progressivement son isolement. Donc, en conclusion, la solitude est tout sauf inéluctable. Elle dépend du mode de fonctionnement de chacun. C'est-à-dire que si on ne veut pas être dans la solitude, on peut trouver à travailler autrement que dans la solitude. Néanmoins, in fine, la décision est unique. Alors, le mode de fonctionnement, il dépend de la personne. Je racontais tout à l'heure, et je vous le fais encore très synthétique, rapidement, pour ne pas trop déborder du temps. J'ai été appelé au CNPF à l'époque pour prendre la présidence de la commission formation par François Périgaud. Et je raconte toujours que, débarrant avec François Périgaud, lorsqu'on allait voir un ministre, on était toujours convoqué dans son bureau une heure avant. On échangeait sur le contenu de l'échange avec le ministre, on préparait le contenu. Et en plus, on préparait le jeu de rôle, c'est-à-dire qui disait quoi, quel jeu de rôle, éventuellement. Et à partir de là, on partait, on allait voir le ministre. Gandois arrive à la présidence du CNPF. Moi, j'avais 2 ans d'expérience avec Périgaud avant. Et premier rendez-vous avec le Premier ministre, avec Gandois. Et j'appelle le secrétariat de Gandois la veille, parce que je n'avais pas de nouvelles. Et j'ai dit à la secrétaire, quand est-ce qu'on rencontre Jean Gandois pour préparer la réunion? Ah non, monsieur, il vous retrouve dans la minute qui précédera l'entretien avec le Premier ministre dans l'antichambre. Voilà, donc on a 2 types de fonctionnement. C'est pour ça que je dis, c'est quand même très personnel, il y a 2 types de fonctionnement. Il y a le fonctionnement où on a envie de partager, de confronter, de construire, et puis un Gandois, c'était le sanglier des Ardennes, ce qu'on appelle le gros solitaire, il marchait seul, il fonctionnait seul, brillant, jusqu'au jour où il se tape la tête dans le mur, c'est ce qui lui est arrivé avec les 35 heures, et il a donné sa démission de la présidence du MEDEF, parce qu'il s'est planté tout seul. Voilà.
Merci pour cette expérience éclairée par la réflexion. J'aurais des questions, mais on reviendra dessus sans doute. Docteur Cadet, à vous la parole.
Alors la solitude du chirurgien, c'est une grande question. Alors c'est la solitude du chirurgien, mais c'est aussi la médecine du praticien, du médecin de campagne aussi. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une spécificité quand même assez forte dans l'activité professionnelle qu'on a en tant que médecin ou en tant que chirurgien, c'est qu'on va développer un colloque assez singulier avec son patient qui va mettre en vous des espoirs importants d'arriver à le guérir et d'aller au bout de son traitement. Et donc ça, à mon sens, c'est une des spécificités qui fait la caractéristique de la relation entre un médecin et son malade, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres aspects professionnels, on a là une relation très très singulière qui fait que vous avez quelqu'un qui va se positionner face à vous, qui va s'offrir à vous en toute confiance et qui pose en vous vraiment les espoirs d'aller jusqu'à la guérison. Et je pense que là, au fond de cette relation, va se nouer un petit peu, probablement, au moins en partie, la problématique de la solitude du chirurgien ou du médecin face à la décision qu'il va avoir à prendre. Parce que, évidemment, il a une décision à laquelle il va falloir se référer, et pour laquelle il va se retrouver un petit peu seul dans la mesure où le patient qui est face à lui repose réellement sur lui et pas forcément sur son équipe pour prendre la bonne décision. Alors, c'est une question qui s'est posée, j'allais dire, de tout temps, je pense, à un médecin ou à un chirurgien qui attaque son clinica ou son activité professionnelle. Et il y a une vingtaine d'années, quand j'ai passé ma thèse, j'avais lu pas mal de textes, et en particulier, il y avait un homme qui s'appelait Charles Clavel, qui était un philosophe, je crois, vraiment un philosophe de la médecine, et qui a travaillé aux Hospices de Lyon comme chef de service à l'hôpital de l'Hôtel Dieu, qui a laissé un certain nombre d'éléments, et dont des livres sous la forme de cahiers laissés. Et j'aimerais vous lire le positionnement du problème qu'il avait fait. Il disait « Un art chirurgical, c'est-à-dire un mystère accessible à de rares individualités. La table d'opération, c'est le lieu où le chirurgien, savant, amoureux comme Hippocrate de l'art et des hommes, donne pour soulager ou pour sauver un individu, et dans l'intérêt seul de celui-ci, le paroxysme de ses forces, de son cerveau, de sa main, de son cœur. Un seul critère, selon lui, le succès. Et là, on pourra peut-être y revenir. Dans cette pièce tragique, le chirurgien est à la fois l'auteur, l'acteur, le seul spectateur valable. C'est en vain que, comme auteur, il se fait assister de médecins multiples, et comme acteur, il s'entoure d'aides nombreux, qu'il convie des troupeaux plus ou moins importants de spectateurs ignorants, dont l'admiration soulage sa conscience. En réalité, il est seul devant le malade. C'est pourquoi il lui faut, pour ne pas faiblir, des idées, des principes, une technique, une morale, c'est-à-dire une métaphysique. La métaphysique, c'est le balancier qui lui permettra d'aborder avec humilité une tâche toujours plus difficile qu'elle ne l'est et d'avancer sans broncher sur la ligne de crête entre deux abîmes, vertige de l'orgueil et vertige de la peur. » Et donc je pense que dans ce texte-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont clairement exprimées sur cette difficulté que peut avoir le médecin à assumer cette charge. On sent bien qu'il y a de la tension dans ce texte. Alors certes, la décision, c'est le fond de l'homme. Hein. C'est par cette capacité que l'homme va rayonner. C'est par cette capacité qu'il va montrer sa liberté, mais aussi qu'il va cacher ses peurs quelque part. Et toute la difficulté dans notre activité professionnelle, eh bien, ça va justement être de faire en sorte de profiter de l'environnement, et on va voir un peu comment, mais en sachant quand même que la décision, quand on va la prendre au bout du compte, on la prend un peu seul. Alors on la prend un peu seul, mais ce sera la dernière partie de mon petit exposé. On a peut-être aussi le moyen de se faire accompagner, et j'ouvrirai peut-être la porte sur la foi et sur ce qu'on peut attendre du Créateur, entre guillemets. Alors, la décision, ça crée un climat de tension intérieure, et ça, je pense que la société l'a bien comprise, et que pour éviter d'avoir le poids de la décision sur les épaules, la société a essayé de partager et de concerter la décision. Alors, est-ce que la décision concertée est forcément la solution à la solitude du chirurgien ou du médecin? Alors j'allais dire que là, ça dépend des situations et qu'on peut très bien classiquement se mettre dans deux situations médicales très différentes, qui est celle du diagnostic ou celle de l'attitude ou la stratégie thérapeutique, qui va vous laisser quand même un certain temps pour vous retourner, pour discuter avec vos camarades, pour aller regarder les arbres décisionnels. Alors c'est un petit peu les aides que la société nous a données, les recommandations, les avis d'experts, et puis les réunions de concertation qui sont bien connues maintenant, où des médecins, pour une pathologie donnée, en particulier pour l'activité de cancérologie, se réunissent, vont discuter d'un cas, et puis vont donner un avis. Et puis cet avis, le médecin a toute liberté de le suivre ou de ne pas le suivre, parce que l'avis qui a été donné est généralement donné dans le cadre d'un dossier, mais un dossier n'est jamais qu'un dossier, et un dossier, ce n'est pas un patient. Et quand on a face à soi quelqu'un qu'il faut prendre en charge et en considération son environnement familial, son environnement professionnel, et un certain nombre de paramètres qui ne sont pas forcément lisibles et bien individualisés dans les dossiers, eh bien il arrive que la décision, on la change. Alors finalement, quand on regarde un peu la décision concertée, on peut dire que ça va aider le clinicien dans sa décision. Ça va réduire l'incertitude, comme disait M. Lacroix, mais ça ne va pas changer la situation. Globalement, quand vous allez être face à votre patient, vous avez quelque chose à lui dire, et la décision, quand vous la prenez, c'est vous qui la prenez. Et d'ailleurs, quand le patient va avoir un problème, il ne va pas se retourner contre le comité de concertation. Quand il va se donner quelque part, il ira vous voir directement. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental, c'est qu'effectivement, on se fait aider, mais cette aide, ça n'est jamais qu'une aide, et la décision, on la prend soi-même. Alors, il faut dire que la société, même si elle vous aide, elle peut, enfin, si elle pense vous aider, elle peut, de temps en temps, vous mettre un boulet au pied. Donc, j'aime bien prendre l'exemple du principe de précaution, par exemple. Le principe de précaution, à mon sens, lorsqu'on a une mauvaise lecture, ce qui est très souvent fait au niveau des instances du principe de précaution, eh bien, on coupe toute innovation thérapeutique. Donc, vous êtes face à un patient, vous avez la possibilité de lui proposer un soin. Ce soin, certes, il est risqué, parce qu'on peut lui faire prendre des risques, mais la société vous dit, non, on ne le fait pas, parce que c'est risqué pour le patient. Donc finalement, on est dans une situation assez paradoxale, où la société va vous mettre dans une situation un peu d'impasse, et c'est là qu'il faut une métaphysique, à mon sens, et là où il faut avoir un sens des responsabilités, pour dire de temps en temps, tant pis pour le principe de précaution, on passe au-dessus, et on se battra si on doit se battre avec les institutions, mais on va faire telle ou telle chose. Alors, un très bel exemple dans notre activité d'aujourd'hui, c'est les greffes composites. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces greffes composites, greffe de main, greffe de partie de face, de visage. On était face, dans les années 2000, donc on doit à Max Dubernard, qui a vraiment poussé ce projet. Et c'est en ce sens qu'il a vraiment fait acte de décision. Il s'est retrouvé devant des instances qui lui disaient qu'il ne fallait pas le faire parce que c'était trop risqué. Et que si on faisait ça, globalement, on prenait beaucoup trop de risques pour les patients. Et parce qu'on a considéré, il a considéré, qu'on était face à une population de gens qui étaient particulièrement dans le désespoir, une situation clinique où on parle de mort sociale chez nous. Ces patients, on les a greffés avec succès, et aujourd'hui, on est en passe de considérer que c'est une stratégie thérapeutique qui va passer dans le soin courant. Donc on voit le pas qu'a pu faire, que la décision a pu... l'avancée que cette décision a pu faire en termes de santé publique. Alors on a parlé des arbres décisionnels, mais il y a des situations où le chirurgien et le médecin n'a pas le temps d'avoir recours aux unités de concertation, aux collègues, etc. etc. Et donc, à ce moment-là, c'est généralement lorsque l'horizon temporel est très réduit, c'est la situation d'urgence ou le bloc opératoire, par exemple. Et à ce moment-là, on peut être dans une situation qui va créer un climat d'isolement et de solitude. Et à ce moment-là, on en revient à ce que disait M. Lacroix tout à l'heure, il y a des piliers sur lesquels on va se positionner, le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Donc la connaissance, la juste analyse de la situation, l'expérience, l'entraînement, l'intuition qui finalement est le condensé de tout ça, et qui vous permet à ce moment-là de prendre la bonne décision au bon moment. Et donc ça me paraît vraiment très très important. Alors, quand on parle de... Donc on vient de voir un petit peu quel pouvait être le lien avec la société. Il y a le lien avec la liberté qui me paraît vraiment très important. C'est que, à mon sens, on ne peut prendre une bonne décision que si on l'a prise en toute liberté. Et là, on va revenir un petit peu sur les piliers dont on vient de parler. C'est que, effectivement, alors pour redire que si une situation n'est pas prise en toute liberté, à mon sens, elle va créer un climat de frustration et elle va isoler psychologiquement celui qui l'a prise. Et donc, ce qui va rendre, à mon sens, une décision libre. C'est de se retourner sur ces piliers du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. La connaissance, la bonne connaissance du dossier, la connaissance du patient, des modalités de traitement, la remise en cause de ce qu'on fait, donc la formation médicale continue, ce qui vous amène à renouveler de façon régulière ce que vous connaissez. Et là, dans ce cadre-là, l'ignorance est incontestablement, dans mon sens, un facteur d'indécision et un facteur de solitude, ça c'est sûr. Quelqu'un qui est ignorant est quelqu'un qui est... Alors, s'il est conscient, bien sûr. Il faut évacuer l'émotionnel, ça je pense que c'est très important. Et c'est pas pour rien qu'on a traditionnellement, on dit traditionnellement que les médecins ne doivent pas traiter ni leurs parents ni leurs enfants. Un chirurgien qui est face à une situation grave chez un de ses enfants, c'est pas très conseillé d'aller le mettre au bloc opératoire pour l'opérer. C'est à mon sens une des meilleures façons pour qu'il prenne justement une mauvaise décision. Donc l'émotionnel doit être éliminé. Il faut se poser quelques instants et puis permettre... de laisser entrer en nous ces mécanismes intuitifs qui vont permettre de vous faire trouver la décision. Quand on est dans une situation de stress extrêmement importante, si on ne se donne pas un peu de liberté, un peu d'espace, on ne prend pas la bonne décision parce que toute l'intuition et tout le mécanisme intuitif qui fait que on regroupe sa connaissance, son expérience, etc. Ça ne vient pas parce qu'on est trop stressé. Donc il faut poser un peu ses valises, entre guillemets. Et puis, il faut échanger si possible, mais ce n'est pas toujours possible, en fonction de la situation d'urgence. Et puis, il faut éviter de se mettre sur le dos le mirage de la perfection. Je crois qu'on n'est pas, Dieu sur Terre. On fait ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut. Et qu'il y a un moment, malheureusement, où la vie des gens, en faisant le mieux qu'on peut, elle nous échappe. Et ça, on n'en est pas forcément responsable. Et ça, ça s'apprend avec le temps, parce que quand on est jeune, on a plutôt tendance à penser qu'on va arriver à tout faire, à sauver tout le monde, et qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Et puis avec l'expérience du temps, on s'aperçoit qu'il faut avoir l'humilité de se dire que de temps en temps, même si on a bien fait, eh bien, on a des échecs, et ces échecs, il faut les assumer. Alors, au final, comment faire? Alors, je prends un peu un risque. Moi, je considère que, mais c'est une vision qui m'est très personnelle, je considère que pour assumer ses responsabilités, pour ne pas être seul face à ses responsabilités, il faut se désapproprier les résultats de ce qu'on fait. C'est-à-dire, comme aurait dit Teilhard de Chardin, se surcentrer ou se décentrer. On est face à des patients aujourd'hui, on est face à des médecins aujourd'hui qui doivent réapprendre que le seul critère de réussite dans le soin, à mon sens, c'est toute l'énergie qu'on met pour essayer de bien faire. Et ce n'est pas forcément la réussite, et c'est là que je m'oppose un peu à Clavel. Parce qu'en médecine, le 100%, ça n'existe pas. Si vous expliquez à un patient que vous avez 100% de réussite, il n'a qu'une chose à faire, c'est prendre ses mains sur la tête et partir en courant. Il vaut mieux qu'il aille voir quelqu'un d'autre. De la même manière, le jamais ou le toujours n'existe pas en médecine. Et ça, il faut avoir ça en conscience. C'est pour ça que, encore, les unités de concertation, etc., nous aident à diminuer un petit peu le bruit de fond. Mais n'empêche que c'est comme ça, il faut absolument que les gens arrivent à comprendre ça. De la même manière, je pense qu'on a des médecins qui souffrent de ne pas avoir des résultats à la hauteur de ce qu'ils espéraient, c'est-à-dire de soigner tout le monde. Les médecins ne savent plus dire aujourd'hui, beaucoup de médecins ne savent plus dire qu'il y a des maladies qu'on ne peut pas traiter et que l'issue de ces maladies, c'est de mourir. Et ça, il faut apprendre à le dire aux patients, alors pas comme ça, aussi brutalement, d'une façon un peu différente, mais il faut l'assimiler quand on est médecin. Et de la même manière, il faut que les patients arrêtent de penser qu'on peut les sauver dans tous les cas, les guérir dans tous les cas, et qu'ils sont quelque part un peu immortels. Alors dans la médecine, on a un taux de suicide qui est lié au problème professionnel qui est très très important, qui est reconnu comme étant très important. Et je ne suis pas loin de penser que cette situation est probablement lié à ce sentiment des médecins qu'ils ont la possibilité in fine d'arriver à tout guérir et de tout prendre en charge et que l'échec, lorsqu'il survient, est vraiment très mal vécu par le corps médical et puis aussi par les patients. Alors je pense que pour aller mieux, le médecin doit se rappeler à son patient qu'il n'est pas Dieu sur Terre. Le médecin doit réintégrer qu'il est dépositaire d'un savoir et d'une volonté, celle de faire le mieux possible dans son acte créateur, mais qu'au-delà, la vie a des secrets qu'il ne veut pas percer. Et ça, moi, je pense que ça, c'est absolument fondamental. Alors, j'allais dire pour moi, si je devais dire ce que je fais, moi, je fais assez souvent l'exercice de la relecture dans le silence de ces moments-là, de ces moments de succès. Et ces moments de succès, je les offre, j'allais dire un peu en action de grâce. Et puis quand j'ai des échecs, je les offre aussi en me disant, j'ai des échecs, mais je n'ai pas le droit de m'arrêter, parce que si je m'arrête, celui que je dois traiter demain, malheureusement, il n'aura pas son traitement. Et donc c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc la solitude face à la décision, je dirais, peut-être n'est-elle pas inéluctable, va-t-elle dépendre un peu du degré de foi qu'on peut avoir. Quand on se sent seul, je pense que si on regarde un peu vers le haut ou au fond de soi, on trouve assez souvent une main tendue et qu'il faut la saisir. Voilà.
Merci. Je tiens à remercier particulièrement les deux intervenants qui sont immédiatement rentrés dans l'esprit du Collège supérieur, c'est-à-dire l'esprit de simplicité et de vérité, qui est vraiment une condition fondamentale de la discussion et de l'amitié. Et puis je ferai remarquer que
au fond, tous deux, à travers des expériences différentes et un vocabulaire différent, vous nous avez conduit d'une première solitude à une deuxième solitude. La première solitude qui est celle de l'incompétence, l'ignorance, et de celui qui découvre qu'il est tout seul parce qu'au fond, il ne sait même pas ce qu'il doit faire et se trouve désorienté. Et puis une dernière solitude quand même, qui est justement celle qui a été soulignée à plusieurs reprises de la décision. Et je me permets de souligner avec reconnaissance ce qu'a dit le docteur Badet quand il a dit que la condition d'une bonne décision, c'était de se désapproprier du résultat. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui... Alors, en plus, qui doit être... Je ne veux pas me mêler d'un monde que je ne connais pas assez, mais qui doit être bon à méditer dans l'entreprise, où on est habitué à raisonner en termes de projets, de résultats, et où, au fond, il peut y avoir une certaine image de la réussite qui est véhiculée et qui peut mettre en danger, au fond, la nature même de la personne. Et donc j'ai aimé que soit rappelé cet acte de désappropriation qui d'ailleurs inspire aussi le texte que j'ai lu à la fin de mon exposé. Alors il est prévu qu'on échange un petit moment entre nous trois. Moi j'ai une question, je ne sais pas si... je ne sais pas la formuler comme il faut. Mais bon, j'essaie de le dire avec simplicité. Je suis toujours gêné quand... j'entends recourir à l'intuition.
Deux fois.
Oui.
Deux fois.
Oui.
Vous êtes doublement gêné.
Oui, donc j'étais gêné deux fois. Coup double. Je comprends ce qui est dit là, mais en même temps, quand même, est-ce qu'on peut avoir une ligne de partage entre l'intuition et l'arbitraire, disons? Le caprice, parce que celui qui dit mon intuition ne me trompe pas, moi je le trouve très chanceux.
C'est pas ce que j'ai dit en tout cas, mais je pense pas d'ailleurs
non,
que.
Mais je vais y revenir.
Oui, non, mais. Corbanet ait été aussi. Je reviens sur le fait qu'on a deux lobes au cerveau. C'est quand même dommage d'être émasculé, d'utiliser un seul lobe, cher monsieur Dumont, celui du cartésianisme. On a quand même un lobe qui est celui de l'affectif, de la créativité, qui est aussi celui de l'intuitif.
Vous faites remarquer au passage que vos jésuites étaient très mauvais jésuites, parce que dans les exercices spirituels, il y a constamment la mobilisation de l'imagination, de la sensibilité, etc.
Oui,
c'était sans doute des jésuites dévoyés.
Oui.
Excusez-moi, je vous laisse continuer.
Et ça existe et ça fonctionne. Ceci étant, ce que j'ai dit tout à l'heure, et en particulier dans le domaine du recrutement, si je faisais appel à la totalité de la puissance de l'intuitif dans la première minute, je passais 59 minutes à le vérifier derrière. Donc c'est l'un plus l'autre. À chaque fois qu'on a la possibilité, c'est l'un plus l'autre. Mais comme ça a été dit également, il y a des moments où vous avez à décider vite et à réagir vite. Et vous n'avez pas le temps de dérouler votre méthodologie. Et à ce moment-là, il faut que ça soit l'intuitif qui aille chercher dans les rayons de la bibliothèque tout ce que vous y avez mis en termes d'expérience, de connaissances et autres. L'intuition va chercher là-dedans et vous dit, face à cet événement, mais en l'espace de quelques secondes et sur une table d'opération, là, c'est les secondes vont vite. Hein. Mais dans notre entreprise, ça peut arriver aussi, soyez dans des cas où il faut aller vite avec des décisions rapides. Ben, l'intuitif va vous chercher tout ça. Et rapidement, vous dites, ben, voilà, c'est la décision que je prends là, pour faire face à cette situation dans l'urgence. Vous n'avez pas le temps de dérouler autre chose. Hein. Voilà, donc ce n'est pas tout pour l'intuitif, ce n'est pas l'arbitraire, mais il y a une vraie richesse de ce côté-là, il faut savoir l'utiliser. Moi, je l'ai découverte, je ne savais pas qu'il y avait ça, je l'ai découvert, je l'ai utilisé avec modération. C'est comme l'alcool.
Oui, non, moi je suis assez d'accord. Je pense que je ne vois pas du tout le processus d'intuition comme une pièce de bonnet lancée en l'air et puis qui va tomber d'un côté ou de l'autre. Pour moi, le mécanisme intuitif, c'est celui qui justement va faire appel au plus profond de vous, à ce que vous avez appris, à ce que vous savez, à votre expérience, et qui fait que en une fraction de seconde, bah, vous posez le doigt là où il faut poser son doigt, quoi. C'est aussi, ou comme en montagne, poser son pied là où il faut le poser, et puis vous n'avez pas réfléchi, vous avez posé votre pied, vous êtes passé, quoi.
C'est ce que je voulais entendre pour me rassurer.
Il fallait vous rassurer.
Parce que non, vous voyez bien en quoi il peut y avoir un abus.
Je suis
bien
d'accord.
Sûr. Mais non, mais c'est un processus hystérique qui fait que ça tombe comme ça.
Le doigt mouillé. Non, c'est pas le doigt mouillé.
Voilà.
Ok. Mais ça existe. Il y a une dimension sur laquelle j'ai envie de revenir. Vous avez abordé Jean-Noël Dumont sur. Vous avez pris l'impression que certains hommes politiques n'ont pas le temps d'une vie intérieure, pas le temps de militer, parce que ça court. Mais j'allais dire qu'en fait, on a tous ce risque-là. À certains moments, on a tous ce risque-là, d'être dans des moments d'existence, de vie, dans des courses effrénées, où on accepte trop de choses, l'entreprise, des responsabilités, j'ai vécu ça, et on court de partout. Et il est vrai que la bonne décision ne peut se prendre que si on a suffisamment de paix intérieure, de calme, a fortiori pour que l'intuition fonctionne, parce que l'intuition dans une turbulence complète, c'est difficile, mais toute bonne décision est la même chose pour avoir la lucidité, même cartésienne, ou intuitive, mais la vraie lucidité, la lucidité ne fonctionne qu'avec un minimum de paix intérieure et de calme. C'est absolument indispensable. Et je pense que là, ça fait partie aussi des choses au fil de la vie qu'il faut savoir, faut savoir s'observer progressivement et puis se corriger. Mais au fil de la vie, quand on commence à monter trop vite, trop haut dans les tours, trop vite dans les tours, faut en prendre conscience et se dire, attends, tu baisses dans les tours, tu te calmes, parce que tu vas faire des conneries. Et ça nous arrive tous, dans votre métier, je ne sais pas, peut-être aussi, si vous acceptez trop de choses, trop de sollicitations, mais en tant que chef d'entreprise, c'est vrai, et plus souvent, c'est l'environnement qui vous y pousse. Hein. Donc,
Je parlerai ni en médecin, ni en entrepreneur, mais en pédagogue. Je crois, comme professeur, que c'est vraiment un des apprentissages fondamentaux. Le silence en classe n'a pas qu'une signification disciplinaire pour faire régner l'ordre. Il est une condition de l'excellence de l'attention. Malebranche disait que l'attention est la forme naturelle de la prière et que celui qui est capable de cette paix, de cette disponibilité parfaite, alors effectivement, lui, on peut comprendre qu'il parle d'intuition, parce que à la description que vous faites de l'intuition, j'ajouterais une disponibilité qui est une véritable attention, qui est le contraire de cette... Il y a un très beau texte de Simone Veil là-dessus, qui est le contraire de cette concentration besogneuse. Simone Veil écrit un très beau texte que je vous invite à lire, qui s'appelle « Du bon usage des matières scolaires pour l'apprentissage de la prière ». Et alors elle dit, quand on dit à des élèves « Faites attention », ils froncent les sourcils, ils tendent leurs muscles, au bout d'une demi-heure, ils sont fatigués, ils croient avoir travaillé. Alors que la véritable attention, elle consisterait précisément à être disponible, à laisser en dessous du seuil de conscience affleurer ce qui était pour l'instant inaperçu. Et c'est pour ça que la solitude voulue, peut-être même la solitude conquise par discipline, dans une vie où, au fond, il est assez facile de se laisser emporter par les discussions, on a toujours quelque chose à faire. Tout le monde peut dire « je suis débordé », etc. Et il y a une solitude conquise par discipline qui est bien nécessaire et à l'équilibre personnel et même à la véritable pesée des décisions. En tout cas, moi, j'ai toujours vécu mon rôle de professeur essentiellement comme étant l'apprentissage de cette parfaite attention.
est-ce que j'y suis arrivé, je ne sais pas, mais j'ai renoncé à la perfection depuis longtemps.
Et le danger en entreprise est qu'en fait, vous avez à prendre des décisions parfois d'une immense gravité dans des conditions qui sont les plus mauvaises qui soient. Parce que c'est en pleine turbulence. Et quand vous êtes en pleine turbulence, de toute façon, la décision, il va falloir la prendre. On prend souvent l'exemple, en fait, d'entreprises qui sont dans des situations un peu extrêmes en gestion de crise. En gestion de crise, vous avez quelques difficultés à trouver la paix intérieure et le calme. Hein. Vous êtes en gestion de crise. Malgré l'environnement, la gestion de crise, savoir souffler à un moment donné pour regarder la situation, savoir où vous en êtes avant de prendre une décision, particulièrement nécessaire, ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de boîtes dans des situations de crise ont une communication très très mauvaise et sont obligées de faire appel à l'extérieur parce que on prend la mauvaise décision, en particulier en communication. Le premier réflexe, c'est de refuser d'être en crise, c'est de refuser de dire qu'on est en crise et de l'avouer. Alors qu'au contraire, il faut le gérer. Mais je pense que vous devez être confronté. Je trouve qu'entreprise médecine, c'est très proche.
Il y a l'horizon temporel qui change un tout petit peu, mais en dehors de ça, c'est vrai que tout à fait.
Il y a une dimension quand même que le docteur Badet a bien souligné, qui est quand même spécifique à la médecine, c'est l'attente, la confiance.
C'est ça.
Bien sûr, toutes les décisions sont difficiles, mais quand même, le soignant, il a affaire à cette attente, une sorte de salut, quoi, qui l'investit d'une responsabilité beaucoup plus lourde que toutes celles qu'on peut prendre quand on gère des hommes à travers des choses.
Mais qu'il faut savoir relativiser, et je pense que ça, c'est très important. Avec le temps, je passe de plus en plus de temps à expliquer aux patients qu'on n'est pas Dieu sur Terre et qu'il y a des choses qu'on peut faire et puis des choses qu'on n'arrive pas à faire et que dans le résultat de la chirurgie qu'on va leur proposer, eh bien, il y a une décision, c'est un choix, mais un choix, c'est aussi un renoncement. Et il y a un renoncement à certaines choses qu'il faut savoir accepter. Et c'est ce qui prend le plus de temps. Hein. Ça prend beaucoup plus de temps d'expliquer ça aux gens que leur dire que ça va très bien marcher et qu'ils iront beaucoup mieux dans la semaine suivante. Hein.